Alors, un mot peut-être maintenant de la communication de Michel Pébrou. Nous connaissons Michel depuis, sauf erreur de ma part, le 26 novembre 2007. Donc, il apparaît un petit peu redondant pour moi de dire un mot de Michel et de ce qu'il a fait, mais je vais quand même le faire parce que c'est assez extraordinaire. Donc, Michel est polytechnicien, ancien élève de l'ENA, inspecteur général des finances. Je l'ai connu au Trésor et on peut dire que j'ai été son élève et son collaborateur lorsqu'il était le secrétaire général du comité interministériel pour l'aménagement des structures industrielles. C'était après le premier choc pétrolier. Notre économie était très bousculée et Michel était l'âme de ce comité interministériel qui, je crois qu'on peut le dire, avec la distance, avait fait un travail extraordinaire. Mais je dois dire que ma connaissance, qui reste très limitée, de la microéconomie, je la dois à cette période où j'étais auprès de toi, cher Michel. Donc Michel a été président du CCF, président de la BNP. Il a organisé la fusion de la BNP et de Paribas. Et la banque dont il a été le président pendant longtemps et dont il est actuellement le président d'honneur est, sauf erreur de ma part, la première banque européenne par l'activité et la rentabilité et est dans le groupe des premières institutions bancaires du monde. Je pense qu'on peut dire qu'il est approximativement dans au huitième rang mondial. C'est... succès de Michel dans le domaine financier sont absolument remarquables. Il a également laissé une trace très, très importante dans notre pays, plus généralement d'ailleurs dans le monde, en étant l'auteur du rapport Pébrou sur la dette publique qui a été publié en 2006 et qui fait tellement autorité que quand on parle de dette publique, on se réfère au rapport Pébrou. Je note, évidemment, ce n'est pas par hasard que j'ai demandé moi-même à Michel s'il accepterait de faire, dans le cadre de la session annuelle sur la bonne gouvernance, s'il accepterait donc de nous faire un exposé en étant aussi libre que possible et en remontant autant qu'il le voulait dans le passé, dans le présent et en dessinant aussi l'avenir pour... ce sujet qui est si important et, je dirais, si grave pour notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire aussi brièvement. J'aurais pu être infiniment plus disert et évoquer les travaux universitaires qu'il a faits à Sciences Po, ainsi que l'ensemble, disons, de son activité dans des domaines qui n'ont plus rien à voir avec les finances publiques ou la banque, en particulier dans le domaine de la science-fiction, où il a réellement aussi créé une légende. Mais ceci étant dit, je lui donne immédiatement la parole.
Merci, Monsieur le Président, de cette introduction trop bienveillante. Bonjour, chers confrères. Je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui, et donc je n'ai pas pu vous saluer comme nous en avons l'habitude. Merci de votre présence aujourd'hui. Je vais parler 55 minutes sur ce sujet, sur le thème « Mieux gérer nos finances publiques ». Nos problèmes de gestion de finances publiques ne sont pas nouveaux. Déficit et dette sont presque aussi vieux que le royaume de France. Ils débouchent sur les états généraux de 1789 et la banqueroute dite des deux tiers qui solde en 1796 les dettes de l'Ancien Régime et de la Révolution. Après plus d'un siècle de stabilité monétaire et de sagesse budgétaire grâce au franc germinal, chacune des deux guerres mondiales hisse notre dette publique à plus de 150% du PIB et déclenche une inflation et des dévaluations massives qui font perdre toute valeur à notre monnaie et à notre dette en francs et ruinent nos créanciers. La mise en ordre du général de Gaulle en 1958 fait disparaître les déficits publics et ses deux successeurs limitent notre dette à 20% du PIB en 1980. Mais François Mitterrand installe un déficit structurel dont les relances keynésiennes augmenteront périodiquement l'ordre de grandeur et que plus personne n'essaiera de faire disparaître. Cette fois, c'est après 60 années de paix que notre dette dépasse 100% du PIB en 2020. Tous les pays ont des dettes publiques, mais celles des pays avancés sont plus élevées que les autres. Mais le niveau et les perspectives de la note de la nôtre présentent de sérieux inconvénients et sont désormais parmi les plus préoccupants. La cause est que nous avons une véritable addiction à la dépense publique. Pour continuer à refinancer notre dette dans de bonnes conditions, il nous faut donc démontrer que nous pouvons et nous voulons la réduire. Cela suppose une révision générale des dépenses de chacune de nos administrations publiques qui prendra du temps. Dans l'immédiat, il faut réduire plus vite que prévu nos déficits. Commençons par l'histoire. En matière de finances publiques des pays avancés, il y a une étude qui fait autorité, celle de Carmen Lennart et Kenneth Rogoff de Princeton, publiée en 2009, « 8 siècles de folie financière ». Elle démontre que c'est presque exclusivement pour financer leur guerre que les rois ont emprunté et que les Français ont été plus souvent en défaut que les autres. Au Moyen Âge, la dette est souvent empêchée par et longtemps empêchée par l'hostilité de l'Église à l'usure, qui est à ses yeux le prêt portant intérêt. Saint Louis saute le pas pour financer ses deux croisades par des prêts de banques génoises. Son défaut, en 1255, est le premier identifié pour les Français. Les banquiers financent les guerres parce qu'elles débouchent sur des pillages qui permettent de rembourser leurs crédits. À partir de la fin du XVe, nous avons une succession de déficits budgétaires et 8 défauts des finances royales. En moyenne, un tous les 37 ans, ce qui est plus fréquent que les autres royaumes. 4 au XVIe et XVIIe siècle, 2 à la fin du règne de Louis XIV, 1 pour Louis XV et 1 pour Louis XVI. 1788. Ce sont bien les guerres qui provoquent de fortes augmentations des déficits. Guerre de 30 ans pour Louis XIII, guerre de Hollande, de la Ligue d'Augsbourg et de la succession d'Espagne pour Louis XIV, guerre de la succession d'Autriche et de 7 ans avec l'Angleterre pour Louis XV, guerre d'Amérique pour Louis XVI. Le passage auprès des rois de gestionnaires rigoureux se traduit périodiquement par une réduction des déficits. Sully près d'Henri IV, Richelieu, près de Louis XIII, Colbert, près de Louis XIV, John Loss, dont le fameux système réduit de moitié la dette auprès du régent, le cardinal Fleury, qui tente d'interdire le déficit, puis l'abbé Théré pour Louis XV, et enfin pour Louis XVI, Turgot, puis Necker, qui a le mérite de présenter en 1781 le premier compte rendu au roi comportant le montant de la dette et le résultat excédentaire du budget ordinaire. Mais la guerre d'Amérique débouche en 1788 sur une dette de près de 100% du PIB avec un déficit du quart des dépenses. Le royaume est en défaut, Louis XVI convoque les États généraux. « Nous avons besoin, dit-il, des concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances ». Les intéressés pensent régler le problème en confisquant les biens de l'Église et en les utilisant comme gage d'un papier monnaie qu'ils créent, les assignats. Émis en trop grande quantité, ceux-ci provoquent une hyperinflation qui leur ôte toute valeur. Le directoire règle le problème en décidant en 1796 le retour à une monnaie métallique, le franc. La dette est séparée en un tiers inscrit sur le grand livre de la dette publique et 2/3 transformés en une nouvelle forme d'assignat dont la valeur s'effondre immédiatement. C'est la banqueroute, dite, à juste titre, des 2/3, qui sera le dernier défaut de l'histoire financière de notre pays. Le budget de 1799 est équilibré et les guerres napoléoniennes apportent des ressources. Le consulat assure la stabilité de la monnaie par la loi du 7 avril 1803 qui instaure le franc germinal. Pour la première et dernière fois, dans l'histoire de notre pays, cette teneur en or sera maintenue pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1918. La dette publique en 1815 est limitée à 15% du PIB. Elle augmente jusqu'à 90% en 1890 du fait des réparations de la guerre de 1870. Le budget de paix est en général équilibré, mais il quintuple de 1828 à 1914. la dette publique est de 75% du PIB en 1914. La Première Guerre mondiale bouleverse radicalement la situation de nos finances publiques. Nos dépenses publiques passent des 10-15% du PIB du XIXe siècle à 30% en 1918. Les dépenses des 4 années de guerre représentent 28 fois le budget de 1914. Les déficits portent la dette publique à 150% du PIB en 1918. Dans l'entre-deux-guerres, le franc germinal se déprécie sur les marchés, sa valeur en or est divisée par 5 en 1928 par Raymond Poincaré. D'autres dévaluations suivent avec le Front populaire. La dette publique passe de 80% du PIB en 1932 à 110% en 1939. La guerre et l'occupation la portent à 170% du PIB en 1945. De 1945 à 1948, l'inflation, qui est en moyenne de 52% par an, ramène la dette à 40% du PIB environ, sous la 4e République. Les budgets sont en permanence en déficit. Inflation et dévaluation sont de règle, ce qui fait descendre la dette à près de 30% du PIB à la fin des années 50. L'inflation ruine totalement tous les créanciers en francs de l'État. En 1958, le général de Gaulle met en ordre le système. Sur le plan monétaire, après la dévaluation indispensable de 17,5%, c'est la création du nouveau franc pour 100 anciens francs. Un plan de rigueur rétablit l'équilibre extérieur et maîtrise l'inflation. Grâce au plan Pinet-Rueff, au déficit public de 650 milliards d'anciens francs de 1957, succède de 1959 à 1966 des excédents budgétaires. Après les chocs des désordres puis des accords de mai 68, une dévaluation est inévitable en 69. Les deux successeurs du général poursuivent ces politiques de développement de l'économie de marché, de libéralisation des échanges, de sage gestion budgétaire. Les Européens lancent à neuf l'Union économique et monétaire en 1971 avec le ministre Valéry Giscard d'Estaing de 70 à 74. Pour la dernière fois, le budget de l'État est en excédent. Mais l'organisation des pays de l'OPEP fait plus que tripler le prix du pétrole fin 73 à la suite de la guerre du Kippour et à nouveau en 79-80 après la révolution iranienne. Ces chocs pétroliers déséquilibrent complètement notre économie. Pour faire face à la montée du chômage, le déficit public est en moyenne de 1,1% du PIB par an seulement de 1974 à 1980. En 1980, les administrations publiques sont globalement à peu près à l'équilibre. Leur dette n'est que de 20% du PIB. Aucun des successeurs des trois premiers présidents de la République n'a leur culture d'équilibre des finances publiques. Dans ce domaine, avec l'alternance politique en 1981, c'est vraiment la rupture. Avec une relance keynésienne massive, l'objectif est, je cite, « d'activer les dépenses publiques ». Elles passent de 46,4% à 50,2% du PIB de 80 à 82 et à 52,4% en 85, créant un déficit structurel qui se situe autour de 3% du PIB jusqu'en 1986. La dette augmente de 50% en 4 ans et dépasse 31% du PIB. La politique dite de partage du travail, notamment le passage de 65 à 60 ans de l'âge de la retraite, débouche sur une hausse massive du chômage. Du fait des déficits budgétaires, le déficit extérieur courant dépasse 3% du PIB. En l'espace de 18 mois, d'octobre 81 à mars 83, il faut procéder à 3 dévaluations du franc et les accompagner de 3 réévaluations du Deutschmark. La politique engagée est incompatible avec la poursuite de l'Union monétaire européenne. Pierre Mauroy change de cap et engage en mars 83 un plan de rigueur avec l'objectif d'un franc fort. De 86 à 88, les dépenses sont ramenées à 50,6% du PIB et le déficit à 2,6% en 1987. Grâce à une politique dite de désinflation compétitive, le déficit budgétaire est maintenu en deçà de 3% du PIB de 87 à 91, ce qui limite la dette à 36,5% du PIB en 91. Mais en réaction à la forte récession qui démarre fin 92, une relance keynésienne est décidée. Les dépenses publiques portent les déficits à 5,4% par an. La dette explose de 20 points de PIB en 4 ans à 60% en 1996. Entre-temps, en 1993, le traité de Maastricht prévoit la création de l'euro et la limitation des déficits à 3% et de la dette à 60% du PIB. Grâce à une réduction des dépenses de plus de 55% à moins de 52% de 1996 à 2000, le déficit respecte la limite à partir de 1998 et la dette se stabilise autour de 60% du PIB. Malheureusement, le gouvernement de Lionel Jospin décide la réduction de 39 à 35 heures de la semaine de travail à partir de 2000, sans baisse de salaire. Cela accroît de 11% le coût du travail horaire en France, en euros, provoque le déficit de nos échanges extérieurs et la désindustrialisation de la France. En 2002, Jacques Chirac est réélu président avec 82% des voix. Compte tenu de son expérience, il pourrait consacrer son mandat aux réformes dont notre pays a besoin, en revenant sur les mesures de partage du travail et en réduisant notre déficit budgétaire. Il n'en fait rien. Or, en Allemagne, Gerhard Schröder, lui, renforce la compétitivité des entreprises par un vaste programme ARTS de modernisation des relations du travail, qui s'accompagne d'une augmentation du déficit budgétaire. France et Allemagne s'entendent pour éviter la procédure de déficit extérieur excessif prévue par le pacte de stabilité pour leur dépassement de la limite de 3%, un fâcheux précédent de la part des auteurs des règles. Une autre décision désastreuse de Jacques Chirac est le choix du référendum pour l'approbation de la Constitution pour l'Europe qui est demandée par la France. Le non-français en mai 2005 crée une crise sans précédent de la construction européenne et une véritable mise en cause de la place de la France en Europe. Dès son élection, Nicolas Sarkozy fait approuver le traité simplifié qui rend l'Union européenne à nouveau opérationnelle. Il lui donne ainsi les moyens institutionnels de relever les défis des crises internationales qui vont se succéder. D'abord, la crise financière de 2007-2008 et la crise économique mondiale qui lui fait suite en 2009. À son instigation est créé le G20, un groupe de 20 pays avancés ou émergents pour faire face à la crise et coordonner les politiques. Il décide le recours collectif au déficit public pour relancer la production. La moyenne annuelle d'une autre déficit est de 5,2% du PIB. Avec une relance keynésienne, la dette publique augmente de plus de 23 points de PIB en 4 ans et avoisine 88% du PIB en 2011. Dès 2009, démarre une troisième crise, la crise des dettes souveraines de la zone euro qui affecte la Grèce, l'Irlande et le Portugal, puis l'Espagne et l'Italie. Deux événements positifs au niveau budgétaire. Un traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance paraphé en 2011 instaure la règle d'or de l'équilibre structurel du budget pour les pays de la zone euro. Et une révision générale des politiques publiques est engagée en France à la suite du rapport sur la commission que j'ai présidée en 2005 et aboutit à une réduction sans précédent de 150 000 du nombre des fonctionnaires. François Hollande signe finalement le traité en 2012 et annonce la disparition du déficit budgétaire pour 2017. Mario Draghi, le nouveau président de la Banque centrale, annonce en juillet 2012 qu'il est prêt à éviter toute crise de la zone euro, quoi qu'il en coûte. Cela met fin à la crise et resserre les spreads des dettes des États membres, ce qui réduit la charge budgétaire annuelle des dettes. François Hollande s'en tient à une politique du rabot pour les dépenses. Le déficit est encore de 3,3% du PIB en 2016. De 2009 à 2018, la France relève au niveau européen de la procédure pour déficit excessif. Sa dette atteint 98% du PIB fin 2016. Emmanuel Macron nous sort du déficit excessif en le ramenant à moins de 3% du PIB en 2017 et 2018, conformément à son engagement de campagne. La crise des Gilets jaunes le porte à 3,1% du PIB en 2019. la politique du quoi qu'il en coûte, en réponse à la pandémie de la Covid-19, a pour conséquence des déficits de 8,9% du PIB en 2020, 6,5% en 2021 et 4,7% en 2022. La dette publique passe de 97,4% du PIB en 2019 à 111,6% en 2022. Pendant ces circonstances exceptionnelles, les normes budgétaires européennes sont suspendues. Voilà donc pour l'histoire. Les comparaisons internationales montrent que plusieurs grands pays ont un problème de dette publique, mais notre situation et nos perspectives sont parmi les plus préoccupants. Tous les pays du monde ont une dette publique. Le FMI les suit régulièrement dans son Fiscal Monitor. Celui-ci évoqué ici est en date d'avril 2023. Pour des raisons de solvabilité, la dette est en moyenne de niveaux très différents pour les trois grands groupes de pays. En 2019, elle est en moyenne de 104% du PIB pour les pays avancés, de 56% pour les pays à revenus intermédiaires, de 43% pour les pays à bas revenus. La pandémie provoque un alourdissement de l'endettement. En 2022, la moyenne s'accroît de 8,5 à 112,5% du PIB pour les pays avancés, de 10 points à 66% pour les émergents, de 5 points à 48% pour les pays à bas revenus. Pour les pays avancés, sur lesquels je vais me concentrer désormais, le plus endetté, le Japon, est celui qui l'augmente le plus, de 28 points à 261% du PIB. Derrière lui, 7 pays dépassent 100% du PIB en 2022, avec des augmentations de dette allant de 0 à 18 points. L'Italie, 11 points à 144%, les États-Unis, 13 points à 127%, l'Espagne, 14 points à 112%, le Canada, 9 points à 106%, la Belgique, 8 points à 105%, le Royaume-Uni, 18 points à 103%. Le Portugal reste stable à 115%. La France, pour sa part, augmente de 14 points à 111%. Pris globalement, les pays de la zone euro augmentent leur dette de 9 points à 91%. Cette moyenne est tirée vers le haut par l'Espagne, la France, 14 points, et l'Italie, 10 points, mais aussi l'Allemagne, 12 points pour aller à 71% du PIB. La moyenne est tirée vers le bas par les 10 pays qui respectent toujours le plafond de 60% du PIB en 2022. Notre pays est donc un de ceux qui ont le plus augmenté leur endettement à cette époque. Ce qui importe aujourd'hui pour les prêteurs, c'est comme d'ordinaire la solvabilité des emprunteurs, donc les politiques budgétaires qu'ils vont mettre en œuvre dans l'avenir pour l'assurer. D'après le FMI, en 2028, les pays avancés pris globalement augmenteraient leur endettement de 5,5 points de PIB à 118%. Des augmentations sont à nouveau envisagées, de 12 points à 134% du PIB pour les États-Unis et de 10 points à 113% pour le Royaume-Uni. Mais le Canada abaisserait sa dette de 15 points à 91%. La moyenne de la zone euro baisserait de 5 points à 86%. La Slovénie passerait à 59% et l'Allemagne à 59,6% après une baisse de 12 points. La Slovénie et l'Allemagne viendraient rejoindre les 10 pays qui respectaient déjà le plafond. Le Portugal abaisserait de 20 points son taux d'endettement à 96%, l'Italie de 12 à 132%, l'Espagne de 3 à 109%. Dans ce contexte, la France envisage une baisse de 3 points à 108%. Notre effort paraît bien modeste et insuffisant pour réduire notre écart avec l'Allemagne et la moyenne de la zone euro. Or, ces déficits et la dette considérable qui en résulte présentent de très sérieux inconvénients. Le premier, c'est qu'ils appauvrissent l'État. Ils ne sont pas en effet le résultat d'un effort structuré pour assurer la croissance de l'économie et la préparation de l'avenir, c'est-à-dire d'investissement. La comparaison de nos dépenses avec celle de la moyenne de la zone euro et de l'Allemagne montre que les domaines pour lesquels nos écarts sont les plus significatifs sont les dépenses de tous les jours, les transferts sociaux, les dépenses de fonctionnement et de personnel des administrations publiques. De ce fait, nos déficits ne cessent de détériorer la situation patrimoniale de l'État. Ses passifs progressent beaucoup plus vite que ses actifs. La situation nette de l'État, qui était négative de 600 milliards d'euros en 2006, l'est de 1400 en 2019 et de 1758 milliards d'euros en 2022. Et encore, cette situation laisse-t-elle de côté les engagements considérables de l'État qui sont enregistrés hors bilan, mais qui ont un impact significatif sur la soutenabilité de sa situation financière. Il s'agit notamment d'engagements découlant de la mission de régulation de l'économie et d'engagements de retraite. Au total, 3 844 milliards d'euros fin 2022. En comptabilité privée, les entreprises sont contraintes d'intégrer dans leur bilan la plupart des engagements classés jadis hors bilan, notamment ceux des retraites. Tel n'est pas le cas pour les administrations publiques. Il est évident que pour ce qui est des retraites, les engagements hors bilan pris vis-à-vis des agents des collectivités locales et des autres administrations publiques mériteraient eux aussi d'être évalués et suivis dans un document rendu public. Ils doivent être de montants considérables compte tenu de l'augmentation colossale du nombre de ces agents depuis 1980. J'y reviendrai. Le deuxième grave inconvénient de la dette, c'est son coût annuel, la charge des intérêts. Elle est réduite par rapport à l'époque du franc grâce à l'utilisation d'une monnaie solide, l'euro. Et les spreads à l'intérieur de la zone sont limités, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'engagement de la BCE. La politique de facilité monétaire de celle-ci avait réduit les taux d'intérêt jusqu'à les rendre négatifs en 2020, ramenant la charge annuelle de la dette à 36 milliards d'euros, c'est-à-dire de l'ordre de 1,3% seulement de l'encours. Malheureusement, la réanimation de l'inflation à la suite de la guerre en Ukraine et de la crise de l'énergie ont conduit au relèvement des taux d'intérêt. La charge de la dette va passer de 38,6 milliards en 2023 à 74,4 en 2027, avec des hypothèses de taux d'intérêt des OAT, des obligations du Trésor, qui pourraient être dépassées. Compte tenu de l'encours de la dette, plus de 3 000 milliards, cette charge liée à son renouvellement permanent au taux d'intérêt nouveau ne peut cesser d'augmenter. L'inconvénient le plus critiquable de la dette, c'est qu'elle met en cause l'équité vis-à-vis des générations à venir. Il n'est pas légitime de faire supporter à celle-ci les charges d'emprunt et d'engagement contractées pour nos dépenses dans des domaines pour lesquels elles-mêmes auront à faire face à leurs propres dépenses, puisqu'elles relèvent de la vie de tous les jours. En quatrième lieu, ces déficits élevés détériorent notre balance des paiements courants, au point de la rendre déficitaire. Nos prélèvements obligatoires, qui sont l'un des deux plus élevés des pays de l'OCDE, et les politiques de partage du travail qui ont limité par la loi le temps de travail des salariés, affectent bien sûr la compétitivité du travail en France et expliquent le déficit considérable de notre balance commerciale. Le déficit de nos paiements courants qui en résulte nous distingue de pratiquement tous nos partenaires de la zone euro qui sont, eux, en excédent. Il est de l'ordre de 1 à 2% du PIB depuis 2002, c'est-à-dire depuis les 35 heures. L'épargne des ménages français est très abondante, mais pas suffisante pour financer ces déficits, des déficits très supérieurs à 3% du PIB. Cela explique la détérioration permanente de notre position nette extérieure, qui est négative de 800 milliards en 2021, c'est-à-dire 32,3% du PIB, proche du seuil d'alerte de l'Union européenne. Concrètement, notre pays dépend des investisseurs étrangers pour renouveler en permanence son endettement public. Le dernier problème posé par la permanence et le niveau de nos déficits publics, c'est qu'ils affectent notre leadership en Europe. Ils sont en effet contraires aux engagements européens que nous avons pris et définis avec l'Allemagne par le traité de Maastricht de 1993 et le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de 2012. En 2010, nous étions, l'Allemagne et nous, à un niveau d'endettement de 80% du PIB à la suite de la grande crise mondiale. Mais en 2019, l'Allemagne avait réduit sa dette de 20 points de PIB à moins de 60%, 59,6%, alors que la nôtre a augmenté de 18,8 points à 98,8%. Cette situation affecte incontestablement notre influence en Europe. Depuis la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, nous sommes entrés dans une période de circonstances exceptionnelles, mais il ne fait pas de doute que le non-respect prolongé du plafond de déficit ne peut manquer d'affaiblir l'influence de nos responsables sur l'évolution de la construction européenne. Il faut faire disparaître nos déficits publics. Or, l'origine de nos problèmes, c'est le niveau de nos dépenses publiques. Ces déficits structurels ne sont pas la conséquence d'une insuffisance de prélèvements obligatoires. Le poids de ceux-ci et leur structure sont des handicaps pour la croissance et la compétitivité de notre économie et de nos entreprises. Situés au trou de 44,5% du PIB, ils sont en permanence l'un des deux plus élevés de l'OCDE, de 5 points au-dessus de la moyenne de la zone euro et de l'Allemagne, autour de 12 points au-dessus de la moyenne de l'OCDE. En outre, leur structure affecte la compétitivité de notre économie car ils pèsent plus lourdement que chez nos partenaires sur les facteurs de production, le capital et le travail. Le poids des cotisations sociales est très lourd pour le travail, à 16,8% du PIB. Il est supérieur de 1,3 point à la moyenne européenne. En outre, la France se distingue pour le capital par des impôts sur le revenu les plus fortement progressifs, 45% sur la dernière tranche, et l'impôt étant alourdi par la contribution sociale généralisée, la CSG, et l'impôt sur la fortune immobilière. Quant aux impôts de production, ils restent, après la réduction récente des plus élevés d'Europe, on peut se demander s'il ne serait pas souhaitable de leur substituer en partie une augmentation de l'impôt que nous, Français, avons inventée et que nos partenaires européens ont adoptée, la taxe à la valeur ajoutée, qui a le grand mérite de ne pas affecter la compétitivité des produits concernés puisqu'elle s'applique aux importations et est déductible des exportations. Dans notre situation, il n'est pas question d'envisager une augmentation de nos prélèvements obligatoires. Il faudrait, au contraire, réduire suffisamment nos dépenses publiques pour pouvoir enfin les alléger sans affecter le déficit. L'origine de notre problème est claire. C'est la montée permanente que j'ai décrite de nos dépenses publiques depuis 1981. Elles sont passées de 46,4% du PIB en 1980 à 52,3% en 1985, je l'ai dit. Depuis, notre point le plus bas a été 50% en 1990 et aucun de nos dirigeants n'a essayé de la ramener en dessous. La crise de la Covid les a portées à 60,6% en 2020 et 58,3% en 2022, avant même cette période de crise. En France, en 2019, la France se trouvait en la matière au premier rang de l'OCDE, plus de 8 points au-dessus de la moyenne et plus de 10 points au-dessus de l'Allemagne. Elle y est toujours. Chacune de nos grandes catégories d'administration publique, la protection sociale, les collectivités locales et l'État, contribue d'une façon ou d'une autre à cette dérive de nos dépenses publiques. La situation la plus critiquable est celle de nos administrations de protection sociale. Notre pays est celui de l'OCDE qui consacre le plus de ressources à cette protection, 33,3% du PIB, 2 à 3 points plus que l'Allemagne et 4,3 points de plus que la moyenne de l'Union européenne. C'est un choix de société qui lui permet de réduire plus que les autres les inégalités. Mais les dépenses en 2019 représentent 763 milliards d'euros. Deux risques sociaux représentent 75% du total, la vieillesse, 46%, et la maladie, 29%. Nous avons un système d'assurance sociale, comme les Allemands, qui devrait être alimenté par des cotisations payées par les employeurs pour le compte des actifs et dont la charge est répartie par la loi entre eux et leurs salariés. Aujourd'hui, le régime général de sécurité sociale est financé à 50% seulement par ces cotisations. Un impôt payé par les ménages, la CSG, assure 20,7% et des contributions directes diverses, impôts et taxes, 20,9%. Le système français est désormais à demi-beveridgien, c'est-à-dire financé aussi par l'État, à l'image du système britannique. Il comprend quatre régimes, seuls Un d'entre eux, le régime accident du travail et maladie professionnelle, reste complètement dans la logique assurantielle. Il est souvent excédentaire. Les cotisations assurent 95,5% des financements. Le régime famille est le plus souvent équilibré, avec un financement à 59% par les cotisations, 23% par la CSG. En revanche, les régimes assurance maladie et vieillesse sont structurellement déséquilibrés. Pour les dépenses de santé, la France est quatrième dans le classement OCDE avec 12,4% du PIB, derrière États-Unis, Allemagne et Suisse. Le financement de la Caisse nationale d'assurance maladie est assuré pour un tiers seulement par les cotisations, un tiers par les CSG et pour le reste par des contributions, impôts et taxes divers. Mais le problème est que, malgré ces contributions, il est en déficit depuis 2002. Ce déficit était limité à 1,7 milliard d'euros en 2019. Il a explosé à 37 milliards en 2020 avec la pandémie et il est encore de 21 milliards en 2022. Pour financer ces déficits, l'État a créé en 1996 la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, à laquelle le Parlement a transféré 136 milliards d'euros de dette et a affecté des ressources de la CSG et surtout une partie des ressources de la CSG et surtout le produit de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la CRDS, créée en 1996 à cette fin et qui a vocation à rester active jusqu'en 2042 compte tenu de l'augmentation de la dette transférée depuis lors. Cette situation est très anormale. Il est manifestement contestable, pour des raisons de principe, que l'assurance maladie s'installe dans un déficit rendant nécessaire un financement par l'emprunt. Elle a pour mission de payer une partie des dépenses de santé des Français. Ce sont des dépenses de consommation courante, immédiate, comme le sont les dépenses d'alimentation. Nul ne songerait à financer par des emprunts à long terme des dépenses alimentaires. Cela a pour conséquence de transférer cette charge à des contribuables de l'avenir qui auront à assumer leurs propres dépenses de santé. Ce n'est pas équitable pour eux. C'est à une situation originale en Europe. En la matière, l'Allemagne dégage traditionnellement des excédents. Il est indispensable de mettre fin au déficit de l'assurance maladie. Cela devrait être facilité par la disparition des dépenses exceptionnelles liées à la pandémie. Les déficits sont encore plus inconcevables pour l'assurance vieillesse. Il existe un certain nombre de régimes d'assurance vieillesse en France, outre le régime général de la sécurité sociale, deux régimes complémentaires pour les salariés du secteur privé et une quarantaine de régimes dits spéciaux. Presque tous sont fondés sur le principe de la répartition. Celui-ci implique que les primes payées par les actifs d'un régime chaque année soit utilisé pour payer les pensions dues la même année aux retraités relevant de ce régime, les excédents éventuels pouvant être mis en réserve. Les sommes collectées sont effectivement réparties entre les retraités pour régler leurs pensions. Elles ne sont pas capitalisées pour pouvoir payer dans l'avenir les pensions des cotisants actuels, comme c'est le cas des régimes dits de capitalisation du monde anglo-saxon. Notre système repose donc sur un principe de solidarité entre les générations. Laisser s'installer des déficits dans de tels régimes est vraiment contre nature, car cela modifie les termes de ce principe. Si les charges des emprunts contractés pour y faire face étaient assumées dans l'avenir par le système, cela léserait l'une ou l'autre des deux parties de la répartition du moment où elles rendront inévitable une hausse des pensions et ou une baisse des pensions, ou une hausse des cotisations pour assurer l'équilibre. Ce serait non seulement inique, mais aussi incohérent. Il faut donc absolument assurer l'équilibre des régimes de retraite par répartition. Or, les prévisions faites par les organismes compétents prouvent que cela ne sera pas le cas dans un avenir proche pour plusieurs d'entre eux, dont le régime général. L'origine structurelle du problème, c'est l'évolution favorable pour nous de notre démographie. Nous vivons de plus en plus vieux, mais cela détériore sans cesse le rapport entre le nombre des actifs qui cotisent et celui des retraités qui reçoivent les pensions. Face à ce problème, trois solutions sont concevables pour assurer l'équilibre. La première est d'augmenter les cotisations. C'est impossible, car la France leur consacre déjà 15,9% du PIB, alors que la moyenne européenne est à 13,6%, seule l'Italie et la Grèce faisant plus que nous. Cela pénalise le coût du travail en France. La deuxième est de réduire les prestations. ce serait profondément injuste vis-à-vis des retraités, qui ne sont pour la plupart pas en état de trouver une ressource de substitution. La seule solution praticable est celle qu'ont appliquée nos partenaires, retarder l'âge de la retraite et ou le nombre des annuités de travail nécessaires pour la recevoir, ce qui permet de rééquilibrer le régime en augmentant le nombre des générations de cotisants, donc les recettes, tout en diminuant à due concurrence le nombre des générations de pensionnés, donc les dépenses. C'est la solution logique. Le déséquilibre est la conséquence d'une dégradation du nombre de salariés cotisants par rapport à celui des retraités. Établir un rapport entre cotisants et retraités qui assure l'équilibre des régimes est la logique du principe de répartition. Le passage de la retraite à 62 ans puis à 64 ans était logique. Il faut continuer. C'est à tort que la réforme des retraites a été critiquée. Il existe un régime de protection sociale qui ne dépend pas de la sécurité sociale, c'est l'assurance chômage. J'en dis un mot, elle protège les salariés en cas de perte d'emploi. C'est une assurance obligatoire à laquelle souscrivent tous les employeurs pour fournir des ressources à leurs salariés lorsqu'ils perdent leur emploi. Le système est financé par les cotisations des employeurs et par l'État, qui y consacre une partie de la CSG depuis 2019. Les salariés qui perdent leur emploi de façon involontaire peuvent toucher un revenu sous forme d'allocation de montant et de durée définie. Ce système a vocation à l'équilibre, les excédents des périodes de forte croissance venant compenser les déficits des périodes de ralentissement de l'économie. Malheureusement, notre pays est installé depuis 1982 dans un chômage structurel considérable, 7% de la population active, ce qui explique les déficits significatifs et permanents. La crise de la Covid a aggravé la dette de 18 milliards et l'a portée à 60 milliards d'euros en 2022. On espère des excédents grâce à la très utile réforme récente qui ramènerait la dette à 42 milliards en 2024. La garantie implicite de l'État limite la charge des intérêts. Voilà donc pour les régimes sociaux. Les collectivités locales posent des problèmes de dépenses spécifiques en raison de leur nombre. Un peu moins de 35 000 communes, 100 départements, 13 régions. L'analyse des résultats de leur groupe en la matière est une moyenne par rapport à laquelle certaines dépensent beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. On pourrait penser qu'elles contribuent moins que les autres à la progression des dépenses, dans la mesure où chacune d'elles est soumise à une règle d'or législative, l'équilibre de leur compte d'exploitation. Or, tel n'est pas le cas. Leurs dépenses, qui s'élèvent à 280 milliards d'euros en 2021, sont imputables pour 58% aux communes, 16% aux départements, 16% aux régions et 9% aux autres administrations publiques locales. Collectivement, ces administrations sont, depuis 1981, une cause essentielle de l'augmentation des dépenses publiques. Elles ont, en effet, changé l'ordre de grandeur de leur effectif. Le nombre de leurs salariés s'est accru d'1,2 million personnes. Elles l'ont multiplié par 2,5. De ce fait, leurs dépenses sont passées de 8 à 12% du PIB. Les dépenses locales par habitant ont doublé entre 1985 et 2020 en euros constants. Le financement est à 61,5% en 2021 assuré par la fiscalité locale et pour le reste par les transferts financiers de l'État. Ces collectivités locales ne peuvent s'endetter que pour la réalisation de leurs investissements. Elles sont donc de très importants investisseurs publics, 2,6% du PIB par an. De ce fait, leur dette est significative, 9,9% du PIB. Mais leurs investissements sont-ils toujours productifs ? On peut s'interroger lorsqu'on constate que, depuis une vingtaine d'années, ils sont consacrés pour une bonne part à la création de ronds-points dont notre pays s'est doté sans aucune mesure par rapport à ses voisins. Était-il vraiment nécessaire, à presque tous les croisements de routes, dans la plupart de nos villages de campagne où la circulation est inexistante, et au carrefour de nos grandes et moyennes villes où leur coût unitaire peut être très élevé ? Le vieux système de ralentissement de vitesse par des panneaux de signalisation n'aurait-il pas été suffisant ? Le principal déficit est naturellement celui de l'État, qui est installé depuis 1974. Cela ne pose pas de problème de principe. L'économie de marché évolue de façon cyclique. Des périodes d'augmentation de la production débouchent sur des crises suivies de périodes de ralentissement assorties de montées de chômage. Keynes démontre que l'intervention de l'État est nécessaire pour relancer la croissance au moment des crises par le financement d'investissements productifs. Il en découle des déficits budgétaires. En théorie, ces déficits peuvent être compensés par des excédents dégagés dans les périodes de reprise, comme le fait l'Allemagne. Cela impose une discipline assez rare. Il n'est pas critiquable d'être en déficit. Mais nous avons un problème de mesure. Nos déficits sont permanents et très importants. Pour 2023, comme en 2019, les dépenses de l'État sont financées pour plus d'un tiers par l'emprunt. C'est vraiment beaucoup trop. Le bilan est clair. Au total, collectivement, toutes nos administrations publiques contribuent à la permanence des déficits et des dépenses qui ne sont pas, par des dépenses qui ne sont pas que très marginalement, des investissements productifs ou des dépenses de préparation de l'avenir. À vrai dire, nous avons une véritable addiction à la dépense publique. Les origines de la gestion insuffisamment rigoureuse de nos dépenses publiques au niveau de chacun de nos groupes d'administration sont bien connues. La première, ce sont les lourdeurs et les incohérences de notre appareil administratif qui sont la source d'incitations permanentes à la dépense publique et de coûts peu justifiés. De nombreuses structures nouvelles sont sans cesse créées au niveau central, tant central que local, sans que soient remises en cause les structures existantes. Les instruments des politiques publiques se multiplient parallèlement selon le même mécanisme d'ajout permanent sans remise en cause de l'existant. Au niveau central, 1244 agences d'État ont été créées, dont 48 opérateurs de l'État, ainsi que 347 autres organismes divers d'administration centrale. Ils emploient 442 000 personnes pour un coût total de 50 milliards d'euros. Pour les collectivités territoriales, à côté des départements et des communes, on a créé les régions, puis les structures intercommunales sans modifier le nombre des départements ni même des communes. S'y sont ajoutées des communautés de communes, des agglomérations et aussi des pays. Un millefeuille des collectivités locales s'est constitué. Quand des fusions sont organisées, on évite rarement des économies. C'est ce qu'on a pu constater avec la décision de François Hollande de faire passer le nombre des régions de 18 à 13. En outre, les instruments des politiques ne cessent parallèlement de se multiplier selon le même mécanisme d'ajout permanent sans remise en cause de l'existant. Les politiques sociales en sont un exemple particulièrement caricatural. La loi organique pour les lois de finances du 1er août 2001 a rationalisé la construction et le suivi du budget de l'État. Mais cela n'a pas vraiment transformé les comportements ni conduit à une gestion plus économe de la dépense. En pratique, trois opérations ont été depuis lancées. La revue générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy a eu quelques résultats, comme je l'ai dit. La modernisation de l'action publique de François Hollande n'avait même pas l'ambition de peser sur les dépenses. Et l'action publique 2022 d'Emmanuel Macron n'a pratiquement pas été commentée. Un signe. L'évaluation des responsables ne porte jamais sur leur capacité à utiliser l'argent public de la façon la plus économe et la plus efficace possible. Mais les lourdeurs et les incohérences de notre appareil administratif sont connues depuis longtemps. Elles ne sont pas insurmontables. Si elles perdurent, si la situation perdure, c'est que le problème est plus profond. Ce sont, en effet, nos pratiques, fondamentalement, nos pratiques politiques et collectives qui sont à l'origine de la dérive alarmante de notre dépense publique. Nos pratiques politiques, d'abord. Périodiquement, les gouvernements s'engagent à réformer l'État dans des discours volontaristes. Mais les décisions ne sont jamais à la hauteur des ambitions. Conduire la réforme d'un appareil administratif est complexe dans un système où le nombre d'échelons politiques n'est pas négligeable, avec des élections de rythmes différents. Et pour réussir la mise en œuvre des réformes, il faut un travail d'explication préalable avec les agents publics concernés et de discussion avec leurs représentants. Il faut aussi faire en sorte que l'opinion publique soit rendue consciente que le coût et l'efficacité des services publics sont des facteurs essentiels de la compétitivité de notre pays. Un engagement politique fort est indispensable. Il manque. Mais le plus grave est que nos pratiques collectives font de l'annonce d'une dépense publique supplémentaire la réponse systématique et souvent unique à nos problèmes, quels qu'ils soient, y compris à nos problèmes de société. L'action publique est de plus en plus jugée sur les critères du montant de la dépense engagée et de la rapidité de son annonce. L'analyse de l'efficacité de la dépense est souvent oubliée. Les résultats sont que les dépenses existantes sont rarement remises en cause. Nous sommes devenus addicts à la dépense publique. Dans de telles conditions, pour convaincre les investisseurs de refinancer notre dette dans de bonnes conditions, nous avons à leur démontrer notre capacité et notre volonté de réduire nos dépenses publiques. Il faut que le gouvernement engage une révision générale des dépenses qui analyse l'utilité et l'efficacité de chacune d'entre elles et la possibilité de les réduire. C'est un travail de longue haleine. Il peut être décomposé en plusieurs parties car il faut étudier toutes les solutions envisageables. Première idée à explorer, envisager la réduction systématique du champ des activités des administrations publiques par des transferts au secteur privé et des sous-traitances. C'est ce qu'ont fait la Suède ou le Canada dans des proportions très significatives. C'est ce que permettrait de faire un examen objectif et critique systématique des prestations de services de l'État et de ses agences, ainsi que des collectivités territoriales. Deuxième sujet à étudier, les interventions dites de protection sociale, un peu moins de 25% du PIB, qui expliquent une partie très substantielle de notre surcroît de dépenses par rapport aux autres pays avancés. L'écart entre la France et ses partenaires européens en la matière s'élève à 4,3% du PIB. Une étude approfondie est indispensable. Une analyse de même nature est souhaitable pour des dépenses dans des secteurs où nous avons des niveaux de dépenses publiques supérieurs à la moyenne de nos partenaires européens, avec des résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Deux sujets importants. Les dépenses de notre système de santé, puisque les résultats de notre lutte contre le Covid ont été jugés par une partie de l'opinion inférieurs à ceux de certains de nos voisins. Les dépenses de notre système éducatif, aussi, car les enquêtes PISA de l'OCDE montrent que les performances de nos enfants à 15 ans se dégradent en moyenne et que 20% d'entre eux ne sont pas au niveau minimum de formation indispensable. Il faudrait aussi lancer l'indispensable réduction du millefeuille des collectivités territoriales. C'est au niveau des communes que l'exception française est la plus manifeste. La France en a trois fois plus que l'Allemagne, 4,5 fois plus que l'Espagne ou l'Italie. Une incitation à la fusion au niveau de leurs syndicats, mais de façon plus intéressante sur le plan financier à celui des agglomérations, mériterait d'être traitée, même si elle est politiquement délicate. En ce qui concerne les régions et les départements, l'idée de faire d'entre elles et eux des blocs plus homogènes politiquement et économiquement qu'avait présenté une commission Balladur mériterait d'être explorée à nouveau. Il faut bien sûr associer étroitement à l'étude des représentants des collectivités territoriales. En tout état de cause, pour mieux maîtriser la dépense, il faut mettre fin à des cofinancements systématiques par les collectivités qui sont déresponsabilisants et incitatifs à la dépense. Chaque niveau de collectivité devrait être spécialisé. Une révision générale des dépenses doit en outre comporter l'examen systématique de la situation des secteurs pour lesquels des élus considèrent que leurs moyens sont insuffisants, la justice, la sécurité, la recherche, l'enseignement professionnel. Elle doit aussi procéder à l'étude approfondie des besoins de dépenses de l'avenir pour la protection de l'environnement et de la biodiversité, la transformation numérique, la transition énergétique. Dans l'immédiat, le gouvernement a préparé un programme pour le pacte de stabilité destiné aux autorités européennes. Il peut paraître ambitieux. Il prévoit de baisser la dépense publique de 4 points de PIB en 5 ans. Mais en pratique, cela ramènerait la dépense à 53,5% du PIB en 2027, alors qu'elle était à 53,8% en 2019. Le programme dit ambitieux aurait pour objectif de mettre 5 ans à corriger les 3 années de dérapage accidentel des dépenses provoquées par la pandémie et la guerre en Ukraine. C'est très insuffisant quand on songe que l'écart de nos dépenses publiques entre notre pays et ses partenaires européens est évalué en 2022 par l'Union à 7,5 points de PIB. En 5 ans, il serait indispensable de faire plus grâce à un programme de réduction du stock en faisant une réduction du stock de dépenses qui existait en 2019. On peut le faire en s'attaquant aux effectifs pour réduire les frais de gestion. L'expérience du secteur productif montre en effet que les méthodes les plus efficaces et les plus rationnelles pour réduire les frais de gestion sont les réorganisations des services permettant des réductions du nombre des postes de travail qui justifient une réduction des effectifs. Le sureffectif de nos administrations publiques est manifeste. Leur effectif a été augmenté d'1,5 million de personnes depuis 1980, c'est-à-dire d'un tiers. D'après les experts de Fipeco, les effectifs des administrations publiques sont en France de 8,5 millions de personnes, soit 29% de la population active, contre 26% en Allemagne et 25% pour la zone euro. Leur réduction aurait un effet cumulatif. La réduction des frais de personnel entraînerait en effet celle de tous les frais généraux qui leur sont liés. Les principales causes de réduction des effectifs depuis des décennies dans les secteurs de services privés sont les progrès des technologies de traitement et de transport de l'information, de l'informatique et d'Internet. Ces progrès font en effet disparaître des postes de travail de salariés, notamment dans les fonctions administratives. C'est la conséquence directe des investissements réalisés. Pendant les 30 dernières années, les investissements dans ces technologies ont été massifs dans toutes les administrations publiques. Or, très rares sont celles qui ont, de ce fait, réduit leurs effectifs. Or, c'est une question d'actualité. Les dernières étapes de la révolution des technologies, de l'information, sont la révolution digitale et l'intelligence artificielle, qui vont faire disparaître de nombreux postes de travail. Il est donc indispensable de lancer, dans chaque administration, les études qui vont permettre de déterminer le nombre de postes de travail supprimés, de façon à pouvoir envisager la réduction correspondante des effectifs. Un deuxième moteur possible des réorganisations qui assure une réduction des nombres de postes de travail et donc des effectifs dans les entreprises est la fusion d'équipes, de services, d'organismes qui peut créer à chacun de ces niveaux des doubles emplois dont la disparition est logique. C'est elle qui a engendré les réductions d'effectifs à la Direction générale des finances publiques, la fusion. De nombreuses fusions sont concevables pour les services de l'État, au niveau central, en réduisant le nombre des ministères, celui de leur direction, mais aussi au niveau local, puisque les services extérieurs de l'État sont désormais tous placés sous l'autorité du préfet. De même, l'État pourrait s'interroger sur l'intérêt de la fusion de certaines des agences publiques qui ont proliféré. Mais il va de soi que l'un des chantiers les plus prometteurs serait la réduction du millefeuille des collectivités locales. Pour traiter avec sérénité la réduction des effectifs, il faudrait organiser une réelle mobilité au sein de chaque fonction publique, mais aussi entre elles, de façon à ce que les agents dont le poste disparaît aient des possibilités plus larges de reclassement par priorité dans les postes libérés par les agents partant à la retraite ou créés par les besoins nouveaux. Pour ce qui est de la méthode, pour la réorganisation des services en vue de réduire les effectifs, l'expérience des pays qui ont réussi les exercices montre que la réforme doit être portée politiquement par le Conseil des ministres, mais que le travail de réflexion à moyen terme nécessaire doit bien être assuré par les véritables responsables des activités. Chaque ministre et chaque responsable de collectivité devrait préparer un projet de réorganisation de ses activités et de réduction de ses effectifs, sauf exception, et en faire préparer un par chacun des organismes qui lui sont rattachés. Pour assurer le succès de ce programme, il faudrait bien sûr impliquer le Parlement et bien informer les citoyens. Un site Internet serait bien utile. S'il veut aller au-delà du programme actuel ainsi amélioré et pouvoir procéder à une révision générale de ses dépenses, l'État devrait se munir d'un instrument indispensable pour pouvoir mobiliser les responsables à tous les niveaux. Une comptabilité analytique qui puisse être une vraie comptabilité de gestion, qui permettrait de calculer le coût effectif de chaque service, de chaque direction, de chaque ministère pour l'État, de chaque collectivité pour les collectivités locales. Cela rendrait possible les comparaisons qui sont génératrices d'émulation. Voilà. C'est parce que la France est le pays de l'OCDE qui a le plus haut niveau de dépenses publiques, 10 points au-dessus de l'Allemagne, qu'elle est installée dans des déficits de ses finances publiques. Il est aujourd'hui vital pour nous de réduire drastiquement ces déficits. C'est donc à ces dépenses qu'il faut s'attaquer. Il faut le faire d'autant plus vigoureusement que nous allons avoir à assurer les dépenses nouvelles nécessaires pour faire face aux défis du futur. La protection de l'environnement et de la biodiversité, la transition digitale et la transformation numérique. Cela impliquerait une révision générale des dépenses existantes, permettant d'apprécier l'utilité et l'efficacité de chacune d'entre elles, de façon à choisir rationnellement celles qui doivent être réduites et de répartir équitablement l'effort nécessaire entre les différentes administrations publiques d'une part, entre les différentes politiques de l'État d'autre part. une telle étude pourrait être préparée par la Cour des comptes. Mais il faudrait bien sûr que le gouvernement lui-même en tire les conclusions et s'engage. Cela va prendre du temps. Dans l'immédiat, s'intéresser à une réduction limitée à celle des dépenses supplémentaires liées à la pandémie et à la guerre d'Ukraine, comme l'envisagent les pouvoirs publics, serait un peu modeste par rapport aux efforts envisagés par d'autres pays de la zone euro pour réduire leurs dettes. Une réduction significative des effectifs d'agents publics démontrerait aux investisseurs la volonté de nos autorités de s'attaquer vraiment à notre problème structurel d'addiction à la dépense publique pour faire disparaître nos déficits. Je vous remercie de votre attention.